1,
9h-11h,
François Claus.
À toutes et tous, et ravi de vous retrouver pour ces deux heures de débat, d'éclairage, avec vous au 39-21, avec vous, Julie.
Bonjour, bonjour François.
Bonjour Julie. On attend vos témoignages, vos réactions sur cette question des prisons qui est revenue à la une de l'actualité. C'est une manière récurrente, tous les deux ans à peu près, une révolte des gardiens qui ne se sentent pas en sécurité, des cellules surchargées. Et s'ajoute à ça la question du retour des djihadistes aujourd'hui dans le débat politique et de la radicalisation rampante dans ces prisons qui ouvre la question de la vocation de réinsertion des prisons. Aujourd'hui, on va tenter de faire le tour de la question. Et Julie, du côté des auditeurs, la question Facebook de ce matin, résultat, j'allais dire, net et sans appel.
Hein. Voilà, on a demandé s'il fallait des prisons spécialisées pour les radicaliser. Oui, à 86% et à près de 10 000 votes. Alors, il y a beaucoup de messages, comme celui de Marie-France. Pas de prison spéciale, si tout était fait correctement, ils ne se radicaliseraient pas. Annick, pas besoin de prison spéciale, un retour dans leur pays serait plus utile. Je ne vous cache pas qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent le peloton d'exécution ou la peine de mort. Et d'autres, on va rouvrir Cayenne.
Voilà. On va essayer justement d'éclairer nos auditeurs sur cette question extrêmement complexe sur lesquelles les réactions, vous les avez vues, sont évidemment éruptives aujourd'hui en France. Mais la question des prisons, c'est quelque part aussi la question de notre équilibre sociétal et une question qui touche la République. Et puis Julie, à partir de 10h, nous sommes le 8 mars aujourd'hui.
Ah bon ?
On a une journée pour en parler, et j'allais dire 364 peut-être pour agir.
Voilà.
Journée internationale du droit des femmes, mais qui arrive dans un contexte évidemment particulier, celui d'une nouvelle prise de parole sur Internet. Et évidemment, les écarts salariaux, on a vu beaucoup de femmes sur les ronds-points des gilets jaunes, le problème des familles monoparentales. Mais de tout ça, si on en riait, j'ai envie de poser cette question, quand je dis en rire, c'est cette parole qui se débride, elle est aussi portée par une nouvelle génération d'humoristes au féminin, portée par le grand succès de Blanche Gardin. Nous serons avec des nouvelles humoristes qui aujourd'hui sont en train d'apparaître sur scène et vous allez voir, leurs paroles, leurs mots sont importants, ils font aussi avancer les mentalités. Et puis bien sûr, 39-21 pour vos témoignages, le standard vous est ouvert, on fait le tour de la question, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec François Claus sur Europe 1.
Et je suis heureux d'accueillir dans ce studio Delphine Boisel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avocate de profession, mais vous êtes surtout présidente de l'Observatoire international des prisons, une structure donc, qui travaille, qui étudie le monde carcéral.
C'est ça, nous sommes une association de loi 1901 qui se donne pour mission d'observer et de dénoncer ce qui se passe à l'intérieur des établissements pénitentiaires.
Alors nous allons voir avec vous justement les grands axes de cette politique carcérale et de ce que révèlent les violences de ces derniers jours et le mouvement qui s'est étendu, il était encore hier, à une dizaine de prisons avec en partie des blocages. On va voir comment ce mouvement va perdurer ou pas. Ce que je vous propose avant d'avoir tout à l'heure le maire socialiste d'Alençon, Joachim Pueyo, qui fut directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui travaille aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur une réforme des prisons à venir et sur le plan prison d'Emmanuel Macron qui va peut-être émerger. Nous allons l'avoir au téléphone dans quelques instants, mais je vous propose d'écouter tout de suite ces témoignages pour comprendre ce qui se passe. Nous sommes à Fresnes, 22 octobre 2015.
Le phénomène de violence, il a effectivement toutes ses formes. Moi, personnellement, je l'ai vécu déjà deux fois en moins d'un an. Par une morsure au mois de décembre l'année dernière, ça a valu quand même une trithérapie à titre préventif. Et puis, il y a moins d'un mois, c'est un détenu qui devait passer en commission de discipline, qui se retourne et puis il vous assène un coup de poing magistral. Voilà ce que c'est que la violence en détention.
Est-ce que ça veut dire que vous allez travailler avec inquiétude ?
J'ai pas cette peur au ventre, mais par contre, je viens de plus en plus souvent avec des interrogations. Comment va se passer la journée ? Comment je vais faire pour ne pas exposer mon personnel ? Parce que je sais que j'ai pas le nombre de personnel nécessaire. Et comment je vais faire pour faire fonctionner l'établissement ?
Nous sommes le 22 octobre 2015 sur l'antenne d'Europe 1. Trois ans plus tard, 22 février 2018, Thibaut Capel, syndicaliste Force ouvrière.
Avant-hier, c'est un jeune collègue qui a subi un étranglement de la part d'un détenu en détention classique. Et hier, c'est un détenu avec un profil psychologique assez lourd qui s'en est pris à notre collègue en lui assenant un violent coup de lame sur le visage. Il est choqué, toujours à l'hôpital là ce matin. Il a subi une opération de reconstruction faciale cette nuit. Ça fait un mois que les surveillants manifestaient leur ras-le-bol et on constate que voilà, les choses se sont pas rangées. Les collègues, je vous le dis, ils sont totalement dégoûtés, ils ont leur ras-le-bol. C'est une situation totalement hallucinante.
C'était donc le 22 février 2018 devant la prison de Fleury. 7 mars 2019, un an plus tard, Vendin, Le Vielle, Pas-de-Calais.
Vous allez à un concert, vous avez 24 000 personnes sur un concert et les 24 000 personnes sont fouillées. Il y a 12 familles qui rentrent à un par l'autre, elles ne sont pas fouillées, vous trouvez ça normal, vous? S'il y a des choses qui rentrent, c'est qu'elles rentrent forcément par le biais des familles. Vous pouvez rentrer un téléphone, vous pouvez rentrer un couteau, vous pouvez rentrer n'importe quoi. Il faut que ça change, il faut qu'on nous donne, nous, les moyens de travailler.
Voilà, Delphine Boisel, c'est 3 témoignages. Nous sommes à 4 ans d'intervalle, du 22 octobre 2015 à mars 2019. Le constat est là, la situation perdure et peut-être même s'aggrave, vous diriez, en matière de sécurité dans nos maisons d'arrêt.
Je trouve toujours regrettable en fait qu'on vienne à s'interroger sur la situation des prisons françaises que lorsqu'il y a des événements dramatiques comme celui qui a eu lieu il y a quelques jours à Condé-sur-Sarthe. Parce que, vous le disiez en introduction, les prisons françaises, les prisons sont un élément de notre République. Et il est toujours terrible d'attendre finalement un événement dramatique pour venir parler des conditions de détention de 71 000 personnes et de parler, puisque nous sommes à plus de 70 000 personnes incarcérées au 1er janvier 2019 pour 58 000 places, à peu près 55 000 places. Et des conditions qui effectivement s'aggravent au fur et à mesure tant pour les personnes détenues que pour les surveillants qui travaillent à leur contact. Hein, une dégradation des conditions de détention implique nécessairement une dégradation des conditions de travail pour les personnels pénitentiaires. Et c'est finalement un lieu de la République. La prison est un lieu de la République et on en parle et on ne s'y intéresse que lorsqu'il y a des choses dramatiques.
Et quand on est dans cette émotion des faits dramatiques, les réactions sont évidemment très éruptives et le vrai débat sur la vocation de la prison est lui-même un petit peu occulté par cette émotion du moment.
Depuis mardi, on entend les pires choses. Enfin, vous l'avez rappelé aussi avec le sondage que vous avez...
86% de nos auditeurs, 10 000 appels, parlent même de retour de peine de mort.
C'est terrible. Alors, nous avons une surpopulation qui s'accroît. De plus en plus de personnes qui sont enfermées. La seule solution qui nous est proposé actuellement par le gouvernement, c'est effectivement la construction de places de prison, alors même que on pourrait réfléchir à autre chose sur le sens de la peine. Vous avez sur les 71 000 personnes, 20 000 personnes qui sont incarcérées pour des peines de moins d'un an. Si on ne pouvait pas réfléchir, enfin si on devrait réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour des personnes qui sont incarcérées pour un mois, deux mois, trois mois. Et voilà, c'est toute la difficulté.
Vous avez ouvert l'ensemble du débat, le problème de la sécurité des gardiens, le problème de leur vocation, et évidemment le sens de l'incarcération et de la peine.
Je vais rajouter qu'au travers du problème de la surpopulation, vous évoquez la question de la sécurité des gardiens, il y a aussi la sécurité des personnes détenues, parce que depuis les événements de Vendin-le-Vieille l'année dernière, à peu près à la même période de l'année, on a beaucoup entendu les personnels pénitentiaires parler d'un accroissement des violences sur leur corps professionnel, sur le corps des surveillants. Mais on occulte aussi de dire que la violence inhérente finalement à l'enfermement 23 heures sur 24, elle génère aussi plus de violence à l'intérieur pour les personnes détenues qui en sont aussi les premières victimes. Donc tout est à repenser, tout est à réfléchir. Et là, ce qui nous est proposé depuis, en tous les cas ce qui nous est vendu par le gouvernement ne pourra pas aller du tout dans le sens de quelque chose de posé, d'une réflexion intelligente et intéressante sur l'enfermement et la prison.
Eh bien, c'est cette réflexion que nous allons tenter, Julie, d'ouvrir pendant l'heure qui vient. Et nous aurons dans quelques instants Joachim Pueyot, le maire socialiste d'Alençon, député aujourd'hui, qui travaille sur les questions des prisons et sur. Il réagira vraisemblablement à vos propos, Delphine Boisel. Et il sait de quoi il parle lui aussi, puisqu'il a dirigé Fleury-Mérogis. À tout de suite, 39-21. Nous vous attendons. Europe 1.
Encore des témoignages dans le cadre de notre consultation Facebook. Olivier nous dit « Des prisons de haute sécurité avec autant de problèmes de sécurité, je crois qu'il y a urgence à faire quelque chose. » Diane, la prison doit être une punition, pas un centre de vacances. Autrement dit, pas de téléphone, pas de télé, ni tous les autres services que l'État leur offre avec nos impôts.
Et on va en débattre. Il y a dans prison aussi une vocation, on le disait d'entrée, de réinsertion. Et évidemment, cette dimension-là est compliquée à assumer dans le contexte qui est celui des prisons françaises qu'on évoquait à l'instant avec Delphine Boezel. Bonjour, monsieur Puyot.
Bonjour.
Joachim Puyot, vous êtes le maire d'Alençon, vous êtes député.
J'étais maire d'Alençon parce que entre 2008 et 2017, puisque vous savez que la loi sur le cumul s'applique, voilà. Donc je tenais à
oui, oui, absolument. Vous avez raison de le préciser. Mais vous co-présidez le groupe parlementaire d'études sur les prisons et les conditions carcérales. Est-ce qu'il ne serait pas temps, comme le disait Delphine Boezel, Monsieur Puyot, de réfléchir à une autre voie que celle de la création de toujours plus de places, qui est pour le moment le socle annoncé de la réforme carcérale en France, qui de fait, vous l'avez entendu dans le témoignage, pas avancer la question, et on voit que depuis une dizaine d'années, la problématique est la même et ressurgit à chaque fait de violence. Pourquoi on n'a pas le temps de cette réflexion aujourd'hui ?
Alors, il y a eu des réflexions, il y a eu des rapports parlementaires qui ont été très importants depuis de nombreuses années. La question des places des prisons, je pense qu'il ne faut pas construire. Moi, je dis tout simplement, il faut absolument que les décisions de l'autorité judiciaire qui est indépendante et qui applique la loi doivent être mises en œuvre dans des bonnes conditions. Or, actuellement, les décisions de la justice ne peuvent pas être mises en œuvre dans des bonnes conditions puisqu'il manque 10 000 places de prison en France. Donc, c'est un point qu'il faut rappeler. Et c'est cette surpopulation génère beaucoup de conséquences. Conséquences sur les conditions de travail des personnels, conséquences sur les conditions de détention des détenus. Et ça remet en cause, notamment dans les maisons d'arrêt, cette surpopulation, ça remet en cause le sens de la peine qui est quand même simple, mais qui est difficile à mettre en œuvre. D'une part, on sépare le détenu de la société pendant quelques mois, quelques années, quelquefois de longues années. Donc il y a une vocation sûreté sécuritaire, mais à un moment donné, le détenu va sortir, et donc il est de l'intérêt de la société de mieux préparer sa sortie et de façon à favoriser son insertion dans la société.
Donc, mais ça, Monsieur Puyot, vous avez fait le constat de la difficulté, parce qu'il est là, 10 000, on a 10 000 détenus de trop dans les prisons françaises.
Oui,
aujourd'hui,
dit...
alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a établi ce constat ? Il faut en faire sortir 10 000 ?
Mais d'autre part, le gouvernement s'est engagé à construire rapidement 7 000 places. Donc il faut le faire. Bon. Le gouvernement vient de proposer une loi pour éviter que les personnes qui sont condamnées à moins de 6 mois d'emprisonnement puissent exécuter leur peine en milieu libre. Donc c'est une première décision. Puis on ne peut pas dire également que tous ceux qui sont condamnés vont en prison. Vous avez des milliers de condamnés qui exécutent leur peine en milieu libre, le bracelet électronique, 10 000. Vous avez tous les condamnés avec des sursis mis à l'épreuve. Ce qu'on oublie de dire quelquefois, c'est que en dehors des affaires criminelles, où là, ils sont écroués directement, lorsque un détenu condamné pour des délits, généralement, c'est rare d'aller directement en prison. Ils ont été condamnés à de nombreuses reprises, avec des sursis, des mises à l'épreuve, c'est-à-dire avec un suivi par les services d'insertion de probation, et c'est au bout de plusieurs récidives que le tribunal décide, effectivement, d'une peine d'emprisonnement ferme. Donc, on ne peut pas dire que la France n'a pas des peines diversifiées. Elles sont diversifiées. Je pense qu'il faut encore les améliorer. Bon, mais il y a un gros sujet également concernant les violences qu'on rencontre. Je pense qu'il y a un problème de sécurité. Est-ce que c'est normal, par exemple, de trouver dans les prisons des objets absolument interdits et dangereux?
Oui, vous avez entendu le témoignage de ce gardien de Vandalevielle, très parlant. Quand on va voir un concert, on est fouillé, et on est en prison, il y a un couteau qui rentre.
Absolument. Donc il y a un problème au niveau des fouilles, il y a un problème au niveau des contrôles. On l'a vu à Condé-sur-Sarthe, effectivement, une famille, l'enquête déterminera les motifs et les raisons de l'entrée de cette arme qui a quand même blessé très gravement un agent. Donc Là, la population se pose des questions quand même.
Et c'est ces questions, justement, je vous propose, Joachim Pueyo, vous restez bien en ligne avec nous. Oui. C'est ces questions qu'on se pose, justement, et on va tenter d'y apporter des réponses et de faire le tour de cette question dont vous avez compris qu'elle était extrêmement sensible et délicate.
Le tour de la question sur le malaise dans nos prisons, François Claus.
Et nous sommes avec Joachim Pueyo au téléphone, qui co-préside le groupe parlementaire sur d'études sur les prisons, les conditions carcérales en France. Vous vouliez, Delphine Boisel, je rappelle que vous êtes présidente de l'Observatoire international des prisons, réagir aux propos de Monsieur Pueyo.
Oui, parce que depuis mardi, on entend toujours, on est palpé quand on va au concert. Les surveillants ont la possibilité aussi de palper les familles. Enfin, ce qui pose d'ailleurs une autre question, parce qu'au final, les familles ne sont condamnées à rien. Elles ne viennent que rendre visite et garder le lien aussi familial et social de l'extérieur qui rentre à l'intérieur. Mais il y a des possibilités aussi de palper des personnes qui rentrent au parloir et si elles refusent de se faire palper, on leur refuse leur parloir.
C'est
le directeur du syndicat national des directeurs de prison qui l'a exposé aussi depuis cette semaine.
Et donc vous nous dites que c'est parce qu'il y a un manque de moyens qu'ils ne le font pas, ils ne sont pas suffisamment nombreux, ils n'ont pas le temps.
Je dis en tous les cas que ça existe et qu'il y a des possibilités et qu'on ne peut pas tout dire et raconter n'importe quoi depuis le début en disant je vais au concert, je me fais palper et pas les familles.
Sauf que là on était dans une prison dite particulièrement surveillée avec un détenu particulièrement surveillé aussi, condamné à une très lourde peine,
Là, vous allez parler d'un dossier qui est sur l'ouverture d'une information judiciaire, qui va sûrement révéler aussi ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous répondre. Mais c'est pour dire aussi que c'est possible.
Mais vous dites que c'est possible, il faut que ce soit obligatoire. La possibilité de palper, non, l'obligation de palper. Les gens.
Mais pourquoi l'obligation de palper à partir du moment où...
On peut introduire de la preuve, un couteau céramique.
Alors, on est d'accord, mais là, on reviendrait sur une affaire qui est en cours. On ne sait pas encore, on n'a pas tous les éléments. Après, il y a eu un travail parlementaire qui a été fait l'année dernière sur les fouilles, justement. Il était révélé, si vous voulez, qu'à peu près 2% des choses qui rentreraient dans les prisons rentreraient par les parloirs familles. C'est les résultats.
2%.
Et vous voulez soumettre...
Qu'est-ce que vous nous dites? Alors, il est 98% de choses qui rentrent.
Je n'en sais rien. Non, mais je n'en sais rien. Je vous allais pas...
Il y a des enquêtes de fait.
Ce que je veux vous dire, c'est que le rapport parlementaire disait que les fouilles ne permettaient pas, si vous voulez, ça n'avait pas de corrélation avec ce qui rentrait à l'intérieur en détention. Donc, à partir de là, c'est soumettre peut-être... Vous avez 71 000 détenus, tous ne sont pas visités par des proches, certains sont totalement isolés et totalement abandonnés. Mais c'est soumettre après l'intégralité des personnes qui viendraient les voir, alors que ça n'a pas permis de saisie significative ou importante. Voilà. C'est le rapport parlementaire qui a été publié l'année dernière. Rapport de la mission d'information relative au régime des fouilles en détention, commission des lois de l'Assemblée nationale du mois d'octobre 2018.
Joachim Pueyo, vous qui êtes justement dans le groupe de réflexion actuellement au Parlement sur cette question, nos auditeurs sont là et demandent pourquoi est-ce que c'est pas mieux contrôler ce qui entre aujourd'hui dans les prisons.
Oui, parce que si vous voulez, je peux toujours entendre tout, mais moi j'ai fait concrètement des opérations anti-drogue par exemple. Et donc, on avait contrôlé, en présence d'un officier de police judiciaire et d'un membre du parquet, les familles qui rentraient en prison. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de grammes de hashish qu'on a pu trouver. On avait des chiens. Donc, et j'avais fait un calcul en disant, mais si en deux tours de parloir, quand on dit deux tours, ça veut dire que c'est des familles qui rentrent sur 2-3 heures, j'avais calculé, c'était des kilos de hash qui rentraient régulièrement. Par semaine, plusieurs kilos. Donc, on ne peut pas dire que
donc,
rien
des
ne rentre.
Donc,
si vous voulez, quel sens vous donnez à la peine quand quelqu'un est condamné pour violence dans la société et qu'il commet des violences à l'intérieur sur des agents ou sur des co-détenus également? Quel sens vous donnez à la peine quand quelqu'un est condamné pour des trafics de stupes et qui continue son trafic à l'intérieur parce qu'il reçoit de la marchandise? Je veux dire que c'est pour ça que la prison est en difficulté actuellement. Donc il faut absolument qu'on renforce les contrôles et la sécurité. Et ça, c'est vrai que c'est difficile quelquefois à entendre pour certaines personnes, mais pourtant c'est nécessaire. si on veut redonner effectivement un véritable sens à la peine. Donc au niveau des familles, quand on dit on peut palper les familles, c'est rare qu'on le fasse. On le fait lorsque le portique passager se déclenche et là on demande à la personne de retirer effectivement les objets métalliques qui peuvent déclencher l'alarme. Ça peut être une clé, ça peut être des choses comme ça. Et on peut effectivement, avec son accord, faire une palpation. Bon, parce que peut-être qu'il y a une prothèse qui fait sonner le portique. Mais c'est quand même très rare. Et quand je vois ce qui se passe dans les maisons centrales, avec des très longues peines, avec des détenus qui sont prêts à tout pour soit s'évader, soit pour agresser par idéologie, on l'a vu hier soir, je pense que là, il faut renforcer. Et d'ailleurs, si on veut vraiment renforcer les fouilles, il faudrait que certains personnels soient habilités, comme dans les douanes, par exemple, agents de police judiciaire, ce qui permet effectivement d'avoir une structure juridique pour mieux fouiller et mieux contrôler. Et je crois que c'est nécessaire. Et je pense que les familles qui viennent de bonne foi et qui sont là pour aider les détenus le comprennent. Moi, quand j'ai expliqué effectivement aux familles qu'ils allaient faire l'objet d'une fouille pour la drogue, mais ils le comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux effectivement qui essayent de faire rentrer ce genre de produit. Donc, je veux dire que si on veut donner du sens à la peine, effectivement, il y a un effort considérable à faire sur le contrôle des visiteurs. Parce qu'on sait très bien que les parloirs sont des lieux importants de socialisation, mais c'est également des lieux très sensibles. Regardez le nombre de faits graves qui sont passés à partir des parloirs. Soit une tentative d'évasion, soit une tentative de prise d'otage. On l'a vu hier.
Donc, la solution, vous nous dites, Joachim Pueyo, est de contrôler mieux, le faire. Comment? Oui. On va le voir dans un instant et ça nous ramène à la situation, Julie, notamment des gardiens de prison. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on devient gardien? Pourquoi il y en a de moins en moins en France? Et qui gagne, rappelons-le, 1 486 € en début de carrière, 2 500 éventuellement en fin de carrière. Est-ce une vie aujourd'hui d'être gardien de prison? Et peut-on vraiment exercer son métier, celui de surveiller et de réinsérer, compliqué? On fait le tour de la question dans un instant et on prendra nos auditeurs. Il y a Louis qui nous appelle de Marseille, notamment Jacques qui est dans la région parisienne. On entendra leur réaction au débat.
Après l'agression de 2 surveillants par un détenu radicalisé dans l'Orne mardi, un mouvement de protestation du personnel pénitentiaire s'est étendu dans toute la France. Et plus d'une dizaine de prisons sont bloquées. On parle de ce malaise dans les prisons, François Clouse.
Et on évoquait à l'instant la nécessité de renforcer ces contrôles à l'entrée des prisons. Mais Delphine Boisel, vous disiez que selon une étude parlementaire, seuls 2% des objets qu'on retrouve
en
prison passeraient.
Je vais faire une petite rectification. C'est 2,5% des fouilles menées à l'issue d'un parloir aboutissent à la saisie d'un ou plusieurs objets.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent par l'extérieur. J'ai évoqué un instant, pour avoir été correspondant d'Europe 1 à Marseille, à la prison des Baumettes, le long du massif des Calanques, j'ai vu des familles qui ouvraient des balles de tennis avec une lame de rasoir, qui glissaient dedans une puce de téléphone ou une barrette de haschich et tentaient de lancer la balle de tennis à l'intérieur
par-dessus le mur de la prison,
à l'intérieur de la cour.
C'est ce qu'on appelle les projections, effectivement, et c'est les surveillants qui, finalement, voient des projections faites de l'extérieur qui arrivent dans les cours de promenade. Ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui intervient. On peut, et sans le dire et faire injure à tous ceux qui travaillent aussi correctement, on peut avoir aussi des objets interdits qui rentrent de par la part de surveillants pénitentiaires. Enfin, voilà. Donc, c'est un monde vivant, la prison, même si c'est un monde très fermé, c'est un monde qui conduit souvent d'ailleurs au désespoir, à la mort et tout, mais ça reste un monde vivant avec des êtres humains.
On les fouille quand ils remontent de promenade, les prisonniers?
Ils passent sous le portique et certains peuvent être soumis aussi à des fouilles systématiques.
Et il n'y a pas de caméra dans les parloirs pour voir si on passe des objets ou...
Il n'y a pas de caméra dans les parloirs.
Il y a des caméras dans les couloirs de Europe 1, mais il n'y en a pas dans les parloirs.
Il y en a de plus en plus, et notamment dans les nouvelles prisons, dans les coursives, mais pas dans les parloirs. Enfin, pas que je sache.
On a beaucoup d'appels. On voit que le sujet est très concernant. Je voudrais entendre Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour, comment allez-vous?
Écoutez, bien, puisque je suis là en train de débattre avec vous et que le débat est sain, vivant. Patrick, ouais. Vous nous appelez de Marseille, 5e arrondissement. Nous vous écoutons.
Écoutez, d'abord, première chose, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Votre sujet est excellent, votre sujet est important. Et c'est tout à fait un sujet qui mérite beaucoup de réflexion et beaucoup de bienveillance. Pourquoi ? Parce que votre interlocuteur, je vous prie d'excuser, madame, j'ai pas en mémoire votre nom.
Madame Delphine Boezel, présidente de l'Observatoire international des prisons. Allez-y, Patrick.
Super. Donc, si vous voulez, je pense qu'effectivement, j'entendais, j'ai pris des notes au passage, hein, il est question effectivement de matériel qui rentre dans les prisons, il est question effectivement de la violence qui est récurrente au fait d'être dans un schéma anxiogène, coercitif, etc. Alors, nous ne sommes pas des bisounours, personne n'a vocation à être des bisounours, mais je pense, maintenant voilà, j'arrive au fait, que nous sommes actuellement en France dans un schéma régressif de l'approche du problème. On est dans un schéma avec des méthodes complètement dépassées. On est dans un schéma avec des méthodes binaires. Et si vous voulez, c'est terrible, parce que non seulement les détenus en prennent effectivement le subissent, mais c'est surtout les personnels pénitentiaires qui sont... il faut bien l'entendre, des gens qui sont des professionnels, des gens qui sont des êtres humains, des gens qui ont des problématiques, comme effectivement les ethnies, mais pour autre chose. Donc je suis en train de dire quoi ? Que si vous voulez, je m'interroge depuis des années maintenant sur le fait que dans les pays nordiques, excusez-moi de faire ce parallèle, les Français n'aiment pas tellement qu'on les oppose, bon, on les oppose pas, on essaie de regarder...
On développe de nouveaux modes d'incarcération, et notamment dans les pays nordiques, le bracelet électronique, Patrick... Delphine Boezel, le coût d'un bracelet électronique pour une peine, alors on peut déterminer la durée, moins d'un an, moins de deux ans, par rapport au coût de l'incarcération ?
Le coût d'un bracelet électronique est entre 10 et 15 euros. Le coût d'une journée moyenne, alors par personne qui est par jour, 10 euros par jour par personne porteur d'un bracelet. Et la moyenne pour un jour de détention, c'est 100 euros par jour par prisonnier.
Voilà un chiffre parlant et éloquent. Merci Patrick d'avoir apporté votre pierre au débat.
Est-ce que je peux me permettre, puis après je disparais.
Non, vous restez avec nous à l'antenne, vous nous écoutez.
Voilà, oui, mais je me permets de dire, parce que c'est l'occasion, merci madame de votre remarque, merci.
Merci à vous Patrick d'avoir participé au débat. Joachim Pueyo, on sent... parce qu'on a vu notre question Facebook, contre l'opinion qui demande à être rassurée dans un contexte sociétal anxiogène, celui du terrorisme, celui des violences, qui demande des prisons sûres, développées, et la réalité du débat, c'est qu'il faut développer malgré tout des peines de substitution. Cette réflexion, elle est bel et bien en cours, M. Pueyo.
Oui, bien sûr, mais vous savez que la loi pénitentiaire de 2009 avait renforcé les peines de... substitution et les aménagements de peine. Donc, on a dans le code de pénal toutes les possibilités, ainsi que dans le code de procédure pénale avec le juge d'application des peines qui peut effectivement prendre des décisions sous forme de commission juridictionnelle, soit de mettre un détenu en libération conditionnelle avec un suivi. Et le suivi pose problème également, c'est-à-dire qu'il faudra renforcer si on veut que
et donc donner des moyens, on en revient au cœur du problème.
Oui, au service pénitentiaire d'insertion, parce qu'on oublie, que les services pénitentiaires, vous avez la prison, mais vous avez également les services pénitentiaires d'insertion qui font un travail d'accompagnement et de contrôle également des personnes condamnées, soit en milieu fermé, soit en milieu libre. Mais on a effectivement dans le code pénal, dans notre législation, toute possibilité pour qu'un condamné puisse exécuter une peine, notamment les courtes peines, en milieu libre ou soit en milieu semi-libre. Je pense à la semi-liberté, je pense au placement extérieur, sous contrôle ou non contrôlé. Donc on a quand même, dans le code actuellement, beaucoup d'éléments. Je pense que dans la loi qui vient d'être votée, qui sera bientôt mise en œuvre, on a effectivement, pour toutes les peines de moins de 6 mois prononcées par un tribunal, eh bien, il n'y aura pas de possibilité pour les faire en milieu fermé. Donc, il y a encore...
L'arsenal est là, faut-il encore l'appliquer
voilà. Mais je pense également que la surpopulation, le gigantesque également de certaines maisons d'arrêt, met l'administration en difficulté. Donc, je propose, moi, qu'on construise des nouvelles places, mais dans des établissements de pas plus de 400 détenus, ce qui permet effectivement de mieux contrôler, de mieux organiser au niveau de...
Plus de places, mais dans des prisons plus petites. Je suis obligé une nouvelle fois de vous couper, car on a des contingences, évidemment, commerciales, mais le débat continue, et l'affaire de Condé sur Sarthe le révélait également, avec la question sous-jacente, et terriblement, évidemment, anxiogène également, de la radicalisation dans les prisons. On ouvre cette question de la radicalisation, Julie, après une courte pause.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Faut-il des prisons spécialisées pour les radicaliser ? Plus largement, quels sont les principaux dysfonctionnements dans les prisons et les raisons de la colère des personnels ? François Claus.
Alors, on a évoqué la question de la surveillance des parloirs, on a évoqué la question éventuellement des peines de substitution, et puis arrive dans le débat, depuis quelques semaines, sur fond de terrorisme et de menaces terroristes sur notre pays, le retour des djihadistes aujourd'hui en Syrie. Et je suis heureux d'accueillir au téléphone, il est avec nous, Farhad Khosrokavar. Bonjour monsieur. Êtes sociologue franco-iranien, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez travaillé depuis un certain temps et depuis même très longtemps sur cette question de la radicalisation en prison. Vous diriez aujourd'hui, la prison française, le système français, est un foyer de radicalisation ?
Je ne crois pas que ce soit un foyer de radicalisation, mais c'est un lieu propice à la radicalisation, comme toutes les prisons européennes d'ailleurs. Mais le problème essentiel en France, c'est qu'on a beaucoup plus de radicalisés, du moins tels que la presse et les institutions les qualifient, que dans d'autres pays européens. Je crois que c'est aussi un effet de classification et de dénomination. C'est-à-dire, vous traitez n'importe qui crie « Allahu Akbar » de radicaliser, et il va y avoir beaucoup de vocations, parce que ce sont des gens qui, si vous voulez, qui cherchent la notoriété, qui cherchent à se faire voir des uns et des autres. Le dernier...
Vous êtes en train de nous dire que ça donne une forme d'identité que de revendiquer ce type de thèse aujourd'hui dans un
exactement.
Monde où on est dénué d'identité.
Mais oui, et la raison pour laquelle la France a beaucoup plus, à mon avis, tient en partie du moins à ce phénomène. On dit qu'il y a 10 000 radicalisés sur le fichier S, mais ça veut dire quoi 10 000 radicalisés ? Il y a 1 600 radicalisés en prison, mis à part ceux qui ont été condamnés pour association de malfaiteurs. Tout ça, si vous voulez, a un effet... propitiatoire, ça encourage en quelque sorte les détenus à se réclamer de l'islam radical, et même à l'extérieur, les jeunes, si vous voulez, qui sont en perte d'identité, qui veulent se faire remarquer ou qui sont dans une situation de désespoir. Bref, vous créez des vocations avec cette dénomination et cette façon d'alerter la société. La femme qui a tué, si vous voulez, 10 personnes dans son immeuble il y a quelques semaines dans le 16e arrondissement, si elle avait crié « Allahu Akbar », il y aurait eu une couverture médiatique mondialisée, alors qu'elle a tué quand même 10 personnes. Le dernier a blessé 2 surveillants avec une arme en céramique, un couteau en céramique. Et voilà, comme il dit qu'il est radicalisé, comme il dit qu'il est pour l'islam radical, etc., on dit « ce sont des saltimbanques, ce sont des gens, si vous voulez, c'est des radicalisés de pacotille ». Ils veulent se faire remarquer, et c'est vrai que, par exemple, Michael Chiolo, depuis avant-hier, il a la couverture de la presse mondiale. Il est devenu une star. C'est ce que j'appelle, moi, le star system dans la prison.
Oui,
Maintenant, il y a un star system radicalisé, un star system djihadiste. Je crois qu'il faut être très, très clair. Quelqu'un comme Klein, qui vient d'être tué, si vous voulez, Fabien, etc. Et quelqu'un comme les gens, Peter Sherif, etc., qui ont été arrêtés. Là, ce sont de vrais djihadistes. Ils ont un projet de société alternative, ils veulent instaurer l'État islamique, ils veulent faire tout cela. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Michel Chiolo a dit qu'il voulait se venger en quelque sorte son copain qui avait été tué dans l'affrontement avec la police. Et c'est comme ça que ça se construit. Moi, je crois qu'il faut se pencher sur cette vision de la radicalisation qui distingue la France maintenant de la plupart des pays européens. On fait trop de la publicité pour ces phénomènes-là, et on crée des vocations à partir de là dans une partie de la jeunesse désespérée de ce pays.
Oui, n'empêche qu'il y a du prosélytisme en prison quand même.
Mais il y en a dans toutes les prisons d'Europe, mais le prosélytisme n'est pas la radicalisation. le prosélytisme, c'est le fondamentalisme. Et le fondamentalisme n'est pas la
radicalisation. C'est de l'endoctrinement.
L'endoctrinement, ça dépend de quelle forme. Par exemple, il y a des formes d'endoctrinement, mais qui ne sont absolument pas nécessairement de la radicalisation. C'est vraiment, qu'il y ait de la radicalisation en prison, c'est indubitable. Mais son étendue, à mon avis, c'est ça qui est discutable. Je veux dire, le nombre des gens qu'on qualifie de radicalisés. Moi, j'ai travaillé 3 ans et demi, si vous voulez, dans les prisons, et c'était encore pas aussi bien organisé au niveau de la radicalisation, puisque maintenant, il y a un service beaucoup plus important, doté de personnel, etc. Eh bien, je peux vous assurer que bon nombre de gens qu'on suspecte de radicalisation, ce sont des fondamentalistes, ce sont des gens qui cherchent à se faire noter, à se faire remarquer, et ensuite, ce sont des gens qui trouvent que la radicalisation est une bonne voie pour ce genre de venger. Chérif Chekat avait 27 condamnations. Il était à la veille d'être mis en prison. Il avait fait tout ce que l'on peut dire pour rater sa vie. Et en même temps, il reprochait à la société française d'être à l'origine de ses malheurs. Alors il cherche le martyr. Il fait acte d'allégeance, si vous voulez, à l'État islamique sur une sorte de une clé USB. Et voilà, c'est parti la machine.
Monsieur Cosco. Khosrow Kavar, excusez-moi d'avoir écorché votre nom.
Aucun problème.
Je vous propose de... Nous avons Jacques au téléphone. Jacques qui nous appelle de la région parisienne, Saint-Michel-sur-Orge, et qui voulait intervenir sur cette question. Nous vous écoutons, Jacques.
Oui, bonjour.
Bonjour
oui, pour ma part, j'entends par exemple qu'il y a les détenus classiques, on va dire, de droit commun. Et aujourd'hui, effectivement, on est confronté à ces détenus islamistes ou voire même terroristes. Et je pense qu'aujourd'hui, notre logique et le système pénal n'est pas adapté à cette nouvelle forme. C'est une logique totalement nouvelle. Ce sont des gens qui vivent dans un monde, dans leur monde, qui n'est pas le nôtre. Et très clairement, les faits le prouvent. Alors après, on essaye de l'expliquer de façon logique. Enfin, toujours dans la même logique aujourd'hui, celle de notre système pénal. Aujourd'hui, il faut inventer un nouveau système pénal adapté à ces gens-là. Très
Donc
clairement,
vous êtes en train de dire qu'il faut des prisons pour les radicaliser.
Oui, en tout cas, premièrement. Deuxièmement, je pense que, et je crois que j'ai une attitude, enfin une opinion qui est partagée par la plupart des gens, ce sont des gens qui ne peuvent pas être déradicalisés ou qui sont irrécupérables. Et
c'est
on n'a pas,
c'est
la
pas
même
exactement
logique.
Ce que nous disait justement à travers son étude pendant 2 ans et demi au sein des prisons, Monsieur Khosrow Kavar.
Je suis pas d'accord avec lui.
Non, non, mais évidemment, on ouvre le débat. Delphine Boisel, Observatoire international des prisons, les expériences.
Et pour ce qui concerne ces gens radicalisés, je répète, on a une logique qui ne correspond pas à la leur et qui n'est pas adaptée.
Et les faits
sont têtus, ils sont en train de le prouver au fur et à mesure.
Jacques, réponse, Delphine Boisel, les tentatives d'isoler des détenus pour un certain type de délit, est-ce que ça fonctionne dans le monde ?
C'est extrêmement compliqué de répondre à votre question et même de répondre à Jacques. Enfin, il y a 500 personnes qui sont actuellement incarcérées pour des faits de terrorisme. On nous dit qu'il y aurait 1500 détenus radicalisés dans nos prisons, sans qu'on sache bien d'ailleurs comment l'administration pénitentiaire qualifie de qui est radicalisé. Et
Exactement.
Donc, sur les 1500 personnes, on ne sait pas sur quels critères l'administration pénitentiaire se base pour dire qu'elles sont radicalisées. Donc après, vouloir catégoriser et vouloir faire des établissements spécifiques pour tel ou tel type de personnes, si on a, ça me semble moi totalement, je le dis, pardon Jacques, mais absurde, parce que vous avez, c'est une toute petite partie de la population pénale. Vous avez 71 000 personnes. Alors j'entends bien qu'ils fassent la distinction entre les droits communs et, mais à partir du moment où je ne sais pas non plus sur quelle étude scientifique Jacques se base pour dire qu'ils sont irrécupérables, parce que c'est aussi toute la force de notre droit pénal et la force de notre République que de considérer que les gens peuvent à un moment évoluer.
Monsieur Pueyo, vous avez entendu le témoignage de Jacques qui recoupe assez le témoignage de nos auditeurs en général. La réponse de Delphine Boisel, cette question aujourd'hui est entrée au cœur du débat sur le système carcéral français et il n'y a pas une réponse à apporter. C'est ça la complexité. Monsieur Pueyo.
Oui, si
si vous voulez, bon, je reviendrai pas sur les chiffres parce que c'est des chiffres qui ont été annoncés. Le ministère de la Justice a mis en place deux infrastructures, des quartiers pour évaluer effectivement le degré de radicalisation. Et puis moi j'avais proposé à l'époque à l'ancien garde des Sceaux de mettre en place des quartiers de prévention de la radicalisation qui s'ouvrent actuellement au fur et à mesure, qui est de concevoir sur le territoire des quartiers de prise en charge des personnes radicalisées pour accueillir, après leur évaluation, des détenus qui sont radicalisés, qui peuvent faire du prosélytisme, de façon à les séparer du reste de la population pénale.
Et adapter
le régime spécifique de détention des détenus terroristes et radicalisés. C'est l'objectif, c'est de faire 400...
En les gardant places. Dans la structure telle qu'elle est, mais avec une forme de traitement, on va dire à part.
Avec des unités quand même très spécifiques, et qui évite toute contagion et toute proximité avec les droits communs. Le Premier ministre a annoncé la création de 1500 places dans des quartiers étanches, en plus des QPR. Donc voilà, c'est une décision politique.
Ce qu'on appelait les quartiers de haute sécurité à l'époque.
Mais je pense que c'est nécessaire, là, d'adapter les régimes. On ne peut pas mettre tous les détenus sous le même régime, bien évidemment.
Et c'est l'une des difficultés de la prison.
Oui, il faut adapter les régimes. Et lorsque vous avez des détenus qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, évidemment, c'est quand même particulier. Lorsque vous avez des détenus qui sont radicalisés, qui peuvent être dangereux parce qu'ils peuvent influencer une population pénale jeune, qui sont quelquefois influençables, je pense que c'est bien de les séparer. Voilà.
Et c'est la difficulté, Joachim Pueyo, de justement créer ce traitement à part, mais dans un ensemble carcéral qui pourra les amener éventuellement à une forme de réinsertion. La réinsertion, justement, on va en parler dans la dernière partie. Je remercie beaucoup Farhad Khosrokavar, nom difficile à prononcer. Il a fourni l'une des études les plus pointues qui sert de référence aujourd'hui. Et on a vu que la question de la radicalisation était complexe et pas si simple en termes de chiffres. Merci à vous également, Joachim Pueyo. On vous a un petit peu coupé, mais on a des contingences. On va aller, Julie, dans un instant en Corse, où il y a une expérience, justement, de prison tout à fait inédite. Et ça m'intéressera d'avoir le point de vue de Mme Boisel sur cette question. A tout de suite.
Faut-il des prisons spéciales pour les radicalisés? Dernier chapitre, François Claus.
Alors, on a évoqué cette question des prisons spéciales, mais on l'invite à terminer sur une note un petit peu plus positive, Julie, enfin positive, mais intéressante en termes de réflexion. Je suis heureux d'accueillir un réalisateur de cinéma. Bonjour Guillaume Assard.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de ce film qu'on peut voir aujourd'hui en salle en France, qui s'appelle La Liberté. Vous avez eu l'autorisation de filmer au sein d'une structure pénitentiaire très particulière, dont on parle très peu et peut-être pas suffisamment. Nous sommes sur la plaine orientale en Corse, c'est la maison d'arrêt de Casabianda, un projet qui a été lancé dans les années 70, à l'époque où Valéry Giscard d'Estaing était président de la République. Et vous allez nous expliquer ce que vous avez vu, ressenti là-bas, en sachant que les prisonniers sont certes enfermés, mais dans un espace libre entre mer et forêt, et ils travaillent sur des projets agricoles. Ce sont la plupart des détenus condamnés pour des violences sexuelles. Guillaume Assard, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film et qu'est-ce que vous avez ressenti en étant là-bas à Casabianda?
Alors, Casabianda, donc, c'est un centre de détention de 1500 hectares de terres agricoles en bord de mer, avec 7 km de plage, dont 4 sont accessibles aux détenus hors de leur journée de travail. Et c'est précisément ça qui m'a donné envie d'aller voir ce qui s'y jouait. C'est cette image étonnante que j'avais en tête de détenus qui pouvaient aller se baigner. Ça me paraissait complètement improbable et impossible comme image.
Je sens des auditeurs qui ont le poil qui se hérisse, mais il faut aller justement au bout de cette problématique.
Exactement. J'ai vu d'abord le cliché, comme tout le monde, et ça m'a fait très peur, je me suis demandé pourquoi. Et je suis allée voir pour essayer de comprendre ce que c'était exactement. Ce que c'est exactement, c'est une drôle de chose, c'est finalement une toute petite prison, quand bien même elle fait 1500 hectares, puisqu'elle concerne environ 130 détenus, du moins au moment où j'ai tourné. Elle a une capacité d'accueil de 196 places, mais au moment où j'ai tourné, voilà, il y avait 130 détenus. C'est pas une surprise, parce qu'en vérité, les centres de détention ne sont pas les prisons qui sont en suroccupation, ce sont les maisons d'arrêt qu'ils font, ce sont lorsqu'on est en attente de notre procès, voilà, qu'on croupit un petit peu dans les prisons en attendant de passer en procès. Là, ce sont des gens qui ont été condamnés. qui ont été condamnés à des peines très longues et très lourdes, vu la gravité des faits qu'ils ont commis, et qui sont en attente de leur libération. Leur libération est proche, en fait. Ils sont dans les 3 à 5 dernières années de leur peine. Donc, avant d'être libérés, il y a un sas avant la liberté, pour être prêt, effectivement, à retrouver l'air libre, à retrouver ce que c'est qu'un horizon, à pouvoir voir un peu loin. Donc, en soi, c'est une très bonne question qui est posée là, c'est celle de est-ce qu'on peut avoir été enfermé pendant 15 ans et soudain, du jour au lendemain, être
revenir dans un monde normal. Un témoignage, une histoire qui vous a le plus marqué, pour finir, Guillaume Massard?
Un témoignage qui m'a le plus marqué, ça va être le témoignage de quelqu'un qui s'appelait Joël, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui. Joël qui savait ce qu'il avait commis, la gravité de ce qu'il avait commis, et qui avec moi arpentait les chemins de la prison en se demandant comment est-ce que l'extérieur pourrait à nouveau l'accueillir. Qui se posait la question de la deuxième chance et justement de l'ouverture d'un horizon. Et le jour où il a réussi à formuler ça, parce que ça a été très dur, c'est forcément quelqu'un qui était en inquiétude, qui parfois était dans le déni, etc. Au moment où il parle de l'ouverture de cet horizon, il décide de s'asseoir en tournant le dos à la mer, en tournant le dos à l'horizon et en regardant les bâtiments de détention. Et à ce moment-là, moi qui le filmais de face, il vous dévoilait à vous, spectateurs, l'horizon.
Ouais.
Voilà, et ça, c'est une générosité étonnante.
Je confirme que c'est une séquence très très forte. Il faut aller voir ne serait-ce pour réfléchir et s'ouvrir l'esprit. Ça s'appelle La Liberté, ça tourne aujourd'hui en France. Guillaume Massard est parfois face au public pour débattre. Allez, on va considérer que c'est une conclusion positive. Les résultats sont d'ailleurs plutôt bons en termes d'efficacité, Delphine Boisel.
Oui, alors je n'ai pas encore pu voir le film, et l'OIP est partenaire d'ailleurs de la sortie de ce film La Liberté. Oui, c'est des expériences et qui rejoignent un peu d'ailleurs ce qui se passe à l'étranger, notamment dans les pays nordiques, à un moment d'envisager des prisons ouvertes, pour éviter en tous les cas, et je terminerai là-dessus, sur le fait que notre politique pénitentiaire actuellement ne pense qu'à construire des places de prison avec, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup d'argent qui vont être dépensés, alors même que il y aurait des choses à faire en termes d'insertion et de réinsertion.
Et qui seraient peut-être plus efficaces et qui répondraient à la vocation de
ce qu'est
la prison dans notre
budget.
Société. Et qui subissent, elles, des baisses de budget. Merci beaucoup, Delphine Boisel, de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. Merci à tous les auditeurs que je n'ai pas pu prendre. Voilà, on a tenté, à défaut de faire le tour de la question, de faire le tour de la réflexion autour de ce que la prison, Julie, doit être ou pourrait être dans notre société. C'est pas fini le tour de la question. Deuxième heure, oui.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.